Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Charles Darwin, 1809-1882. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était naturaliste, celui qui a collectionné plantes, insectes et coquillages, celui qui a hésité à publier son travail par crainte du scandale et du blasphème. C'est l'histoire de celui qui a traversé les mers à bord du Beagle pour observer les fossiles et les espèces. Celui qui a fini par échafauder la théorie de l'évolution et celle de la sélection naturelle. Celui enfin qui était aussi un père dévoué, un mari aimant et un humaniste engoncé dans la société victorienne de son temps. Sur les quelques images que l'on a de lui, ce qui crève les yeux, c'est cette longue barbe blanche, une barbe broussailleuse, qui lui fait comme un grand plastron immaculé. Il a une couronne de longs cheveux tout aussi blancs, et son crâne dégarni est parfois couvert d'un large chapeau noir à ruban dont le bord souligne les sourcils fournis et indisciplinés du vieillard. Son regard et sa bouche sont tristes ou alors résignés, presque détachés. Peut-être face à la résistance qu'on oppose encore et toujours à ses théories. Mais sur une autre photo, plus étrange, il a un doigt posé sur ses lèvres, comme pour nous demander de garder un secret que l'on peut découvrir jusqu'au 31 juillet à la Cité des Sciences à Paris. Mais tout de suite, Charles Darwin, un documentaire de Lydia Benitzak réalisé par Nathalie Salle.
Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est l'impact qu'a eu l'origine des espèces d'un point de vue culturel. Il n'existe, je crois, qu'un seul livre qui était davantage traduit et lu que l'origine des espèces, c'est la Bible. Mais un ouvrage qui a fait l'objet de caricatures, de toutes sortes de caricatures, qui étaient d'ailleurs assez justes quant à la théorie. C'est très très rare dans les sciences qu'on fasse des caricatures sur des hommes de science. Il y en a eu un petit peu sur Einstein et la bombe atomique, mais Darwin, il y en a eu des centaines des caricatures. Et dans ces caricatures, même si bien souvent la question de la religion était en cause, les dessinateurs ont en général bien capté quelque chose d'essentiel dans la théorie.
Une vie, une œuvre. Charles Darwin ou la lutte pour une théorie.
D'après ce que j'ai vu, je crois que les merveilleuses descriptions de Humboldt sont sans égale et le seront toujours. Mais même lui, avec ses ciels bleus sombres et la fusion rare de la poésie et de la science dont il fait montre avec tant de force quand il parle du paysage tropical, même lui, il est bien loin de la vérité. L'esprit est un chaos de ravissement d'où naîtra dans l'avenir une foule de plaisirs plus tranquilles. Pour l'instant, je ne suis capable que de lire Humboldt. Comme un autre soleil, il illumine tout ce que je vois. Charles Darwin, 28 février 1832, à Bahia, journal de bord du Beagle.
Voilà, ça c'est un texte qui est très intéressant parce qu'effectivement, von Humboldt a été une grande influence pour Darwin. C'est un grand explorateur allemand, mais en même temps, dans ce texte, on sent l'influence d'Edmund Burke, par exemple, chez Darwin, du Traité du Sublime. Voilà, il a un style un peu empoulé, comme ça. C'est son premier contact avec les paysages exotiques, tropicaux. Donc, effectivement, il essaye de transcrire ça un peu à la mode des romantiques. Donc, c'est assez étonnant de voir toute cette stratification dans les textes de Darwin, à la fois de contenu scientifique, etc., mais aussi toutes ces influences littéraires de Burke, Hamilton. Donc, ça, on le voit transparaître souvent dans ses écrits. Donc Darwin, à l'issue de ses études, a reçu une proposition qu'il n'a pas refusée, qui était d'intégrer l'équipage d'un navire de sa gracieuse majesté, donc le HMS Beagle, qui partait en Amérique du Sud pour une mission d'hydrographie, c'est-à-dire une mission qui consiste à la fois à cartographier un peu mieux les côtes de l'Amérique du Sud, faire des relevés météo, de profondeur, etc. Et sa mission était également, d'une certaine manière, de servir de compagnon au capitaine du Beagle, Fitzroy. C'est un voyage qui, finalement, aura duré 5 ans. Donc c'est un long voyage, tout en sachant qu'après, Darwin ne voyagera plus. quasiment, en tout cas pas des voyages aussi importants, et que c'était vraiment aussi là quelque chose d'être très important dans sa biographie.
Le voyage initialement devait durer que 2 ans, voilà, et qui a été prolongé.
Exactement, il devait durer 2 ans, puis finalement ils ont fait un tour du monde dans des latitudes relativement basses, hein, puisque voilà, Brésil, les côtes d'Amérique du Sud, et puis finalement direction l'Australie, un passage par le Cap, retour en Amérique du Sud pour finalement rentrer en Angleterre en octobre 1836.
Darwin était plutôt une sorte de gentleman of science, un gentleman de la science. Les autres étaient plutôt des sortes d'écrivains publics qui vivaient tant bien que mal, mais qui contribuaient à la science de leur époque. En fait, on se rend pas compte aujourd'hui que la connaissance scientifique de l'époque n'était pas socialement structurée principalement par des organismes de recherche ou par les universités. Qu'est-ce qu'il y avait en Angleterre à l'époque ? Depuis le Moyen-Âge, il y avait Cambridge et Oxford, et puis il y avait l'Écosse, déjà un autre pays, hein, et puis c'était tout, il n'y avait rien d'autre. Et tous les professeurs d'université étaient des pasteurs. Il faut bien se rendre compte de ça, si on voulait être professeur, il fallait être pasteur. Alors pas en Écosse, mais à Cambridge et Oxford, c'était ça. Hein. Donc c'était les gens qui faisaient la science de l'époque étaient la plupart du temps autre chose que des professeurs. Et à la fin du 19e siècle, évidemment, il y a eu création de plusieurs universités en Angleterre, à Londres, puis à Manchester, puis dans d'autres lieux. Et voilà.
Le 16 avril 1834, Darwin nous dit dans son journal, « Donc 16 avril, on a échoué le navire et découvert que sur plusieurs pieds, sa fausse quille avait été arrachée. Mais ce n'est pas une avarie très grave, il suffit d'une marée pour la réparer. Et on l'a remis à flot l'après-midi et amarré en sécurité. Pour réussir cette opération aussi délicate, on n'aurait pas pu trouver un lieu et un temps aussi favorable. » Hobart en Tasmanie, 5 février 1836. Donc le 5 février, après une traversée de 6 jours, dont la première partie fut bonne et la dernière froide avec des bourrasques, nous avons pénétré dans la baie des Tempêtes. Le temps justifiait ce nom épouvantable. Plutôt que parler de baie, on devrait dire un estuaire profond qui reçoit à son sommet les eaux de la Derwent. Près de son entrée, on trouve de vastes plateformes basaltiques. Donc on voit dans ce texte, il commence par une constatation géologique, hein, sachant que c'est une discipline que Darwin affectionnait particulièrement, avec laquelle il a commencé. Donc ce voyage a une fonction dans sa vie d'asseoir sa réputation de naturaliste, puisque à son retour en Angleterre, du fait de ses échanges épistolaires nombreux, il a déjà une réputation bien assise de naturaliste. Voilà, ça a été extrêmement formateur.
This is Down House. It has 3 floors, a huge front door, an annex on one side. This is a family house. Charles Darwin's father bought it for him. It cost about £2,000. And in September 1842, Charles and his wife Emma and their 2 babies moved into this house. And within a couple of weeks, Emma had her 3rd child. Eventually, this house saw 10 children. It was a house built for a big family, and Darwin knew that he would be reproductively successful.
Nous sommes à Down House, maison de 3 étages comportant une immense porte d'entrée et une dépendance sur le côté, demeure familiale par excellence. Le père de Charles Darwin l'avait acheté pour son fils moyennant environ 2000 livres. En septembre 1842, Charles, son épouse Emma et leurs 2 bébés emménagent. 15 jours plus tard, Emma donne naissance au 3e enfant. Il y aura 10 enfants sous ce toit. C'est une maison conçue pour une famille nombreuse. Darwin savait qu'il réussirait dans le domaine de la procréation.
Ces carnets sont un des plus précieux trésors pour l'histoire des sciences.
Il en tenait plusieurs, particulièrement pendant toute la période de bouillonnement, où il mettait à jour la théorie de l'évolution. Dans un de ses carnets figure un tableau, sorte de bilan qui pèse le pour et le contre du mariage. On y voit transparaître son sens de l'humour. Il fait souvent de l'autodérision. Cet humour, il le partage avec Emma, et leur relation parfois houleuse fut souvent sauvée par cet humour. Voici donc le bilan. Contre. La liberté d'aller où je veux. Les conversations étincelantes entre hommes au club. Choix des relations sociales aussi peu nombreuses que je le souhaite. Personne pour entraver la solitude dont j'ai besoin. Non obligation de rendre visite aux membres de la famille. Pas de tracasserie futile. Peut-être n'aimera-t-elle pas Londres ? Les enfants sont source d'angoisse, de responsabilité et de dépenses. Moins d'argent pour acheter des livres. Le foyer peut être plus ou moins bien régi. Il pourrait même y avoir des disputes. Forcé de vivre à la campagne. Impossible de lire le soir. Je serai gros, je me laisserai aller comme un sot. Jamais je ne parlerai français, je ne verrai pas l'Amérique, je ne ferai pas de vol en montgolfière. Mais sans enfant, pas de prolongement de la vie, personne pour s'occuper de moi pendant mes vieux jours. Je travaillerai seule, sans aucun soutien de proche. Mais qui ? Qui cela pourrait-il bien être ? Pour une compagne, toujours à mes côtés, une amie avec qui je vieillirai, objet d'amour, de jeu, mieux qu'un chien, des enfants, si Dieu le veut, un foyer et quelqu'un pour s'en occuper, des conversations féminines, c'est bon pour la santé, le charme de la musique, qui sait ? Quelle perte de temps ! Imaginez quelle serait ma vie si je travaillais sans cesse seule dans la fumée et la noirceur à Londres. Et maintenant, pensez à une tendre épouse assise sur le canapé qui me regarde alors que le feu crépite et les livres nous entourent. Voyez Marlborough Street, si étriqué, mariez-vous, 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 CQFD.
When Darwin came back from the Beagle,
de retour de l'expédition du Beagle en 1836, Darwin se rend directement à Cambridge, où se trouvent ses mentors et ses amis. Mais il allait fréquemment à Londres, et il savait qu'il devait choisir entre la vie d'un professeur baignant dans un milieu religieux ou celle que menaient son frère et ses amis à Londres, une vie d'intellectuel citadin. Darwin décide de s'établir à Londres. 5 ans plus tard, en 1842, alors que la Grande-Bretagne était au bord de la Révolution, Charles, Emma et leurs familles nombreuses ont besoin d'un lieu où ils pourraient vivre en toute sécurité. Il veut être proche de la campagne, proche de Londres. Il lui faut un laboratoire, mais il a également besoin de sécurité. C'est pourquoi il s'installe ici. Il dira que cette maison se dresse à la lisière du monde, monde qu'il lui faut fuir.
Alors James Moore, on va visiter avec vous cette maison de Charles Darwin qui est aujourd'hui un musée et dont certaines pièces sont refaites à l'identique.
Bien sûr. This room is called the old study.
Ici nous sommes dans l'ancien bureau.
This was the one where he wrote The Origin of Species and did.
Ici c'est le bureau où il a rédigé L'Origine des espèces et où il réalisa la plupart de ses dissections et expériences scientifiques. Voilà le grand fauteuil de Darwin. Vous voyez ce fauteuil très haut. Il faut savoir que la partie inférieure de ses jambes était très longue, d'où ce fauteuil sur mesure. On voit la même cheminée, les mêmes photos au-dessus de la glace. Et dans la glace, on peut voir l'autre côté de la pièce, on voit un mur de livres dans une vitrine. Tous les ouvrages scientifiques de Darwin, tous les livres que des collègues lui ont envoyés de partout dans le monde. Et dans le coin, derrière le paravent, il y a un petit endroit où Darwin cédait à la maladie. Il était constamment malade lorsqu'il menait ses recherches sur l'origine des espèces. Il y a beaucoup de théories qui ont circulé sur cette maladie, mais dans la réalité, il ne faisait pas semblant, il n'était pas malade imaginaire, il était véritablement malade. Quelqu'un le qualifia de personnage bruyant et malodorant, d'où la présence de ce paravent. Lorsqu'il mit fin à ses travaux théoriques, lors des 10 dernières années de sa vie, il se mit à aller mieux. Personnellement, je pense qu'il était malade parce qu'il était déchiré par son travail. Il était incapable de vivre ce grand écart entre l'homme qu'il pensait être, ce grand scientifique respectable, et l'image qu'il craignait renvoyer. Le pire moment de maladie pour Darwin, c'était lors de sa dépression nerveuse. Cela a duré pendant des mois. Il était incapable de travailler. Il était constamment malade dans le coin que je viens de vous montrer. Je crois que c'était parce qu'il s'est rendu compte, après la publication de l'origine des espèces, que ce devoir d'expliquer l'origine des espèces, le point de départ de la nature humaine, lui incomberait à lui seul. C'était à lui d'expliquer tout cela. C'était à lui d'expliquer l'origine des races, la différence des sexes. Et tout cela, il l'a expliqué dans la filiation de l'homme.
Il était un peu perfectionniste. Et il voulait vraiment prouver sa théorie comme une démonstration mathématique.
Il était obsessionnel. Il ne pouvait pas laisser un travail inachevé. Perfectionniste, oui. Sa femme a dû le soudoyer en quelque sorte pour qu'il sorte de son bureau. « Nous devons partir en vacances », lui dit-elle. « Nous devons prendre le train pour aller loin d'ici, très loin d'ici. » Et bizarrement, lorsqu'elle a réussi à l'extraire de ce bureau dans lequel nous sommes, il se mit à aller mieux, car son esprit pouvait se tourner ailleurs, vers d'autres pensées.
What's important for Darwin is that he controls access.
Ce qui est important, c'est que Darwin maîtrise l'accès à lui-même. Rien ne se passe à Down House sans qu'il ne le sache déjà. Les visiteurs à l'improviste ou les bruits inconnus déstabilisent son état de santé. Quand il s'installe dans l'ancien bureau, il fait poser une glace là, de l'autre côté de la fenêtre. Ainsi, tout en étant assis dans ce grand fauteuil, il pouvait voir dans cette glace, comme dans un rétroviseur, il pouvait voir les gens arriver chez lui. Il n'aimait pas les surprises. Il ne vivait pas en ermite. Il vivait comme une personne obsédée par l'accès à lui-même.
Il impliquait également tous ses enfants à venir faire les expériences avec lui dans les jardins alentours, avec les serres.
Oui, c'est vrai. Sa maison était toujours pleine d'enfants, de petits-enfants, de nièces, de neveux. Lui-même avait 5 frères et sœurs. Donc voilà une très grande famille. Bien entendu, les enfants étaient auprès de lui. Ses enfants ont grandi auprès d'un père qui était plongé dans son travail, dans son bureau. Il était entouré de livres, il y avait là un microscope, et leur père disséquait des créatures, ou des fossiles, et les enfants ont commencé à penser que tous les pères faisaient cela. L'un de ses fils était un jour chez un petit voisin et il lui a dit « Et toi, ton père, où est-ce qu'il garde ces animaux ?» Donc c'était un exemple. Les garçons ont commencé à collectionner des choses comme leur père, et pas simplement des insectes, mais l'un des garçons, lui, était philatéliste et Charles pensait que c'était une manifestation inférieure de l'instinct de collectionneur.
Thank you. as I'm sure you know, when Darwin was 8, his mother very suddenly died.
Quand Darwin avait 8 ans, sa mère est morte subitement. Son père était effondré. Il a vécu en reclus. Ce sont des serviteurs et sa sœur aînée qui se sont occupés de Charles. Et il s'est senti très seul. Et dans son autobiographie, il explique qu'il était passionné de collection. Il était un petit peu comme un miséreux, comme un virtuose, quelqu'un qu'on pourrait appeler un train spotter aujourd'hui. C'est une façon de se maîtriser, de rendre le monde soutenable, de mettre de l'ordre dans les choses de la même espèce. Alors il collectionnait des pierres, des insectes. C'est ainsi qu'il s'est intéressé à l'histoire naturelle. Et Wallace, qui lui aussi a découvert l'évolution, était également passionné par la vie des insectes de la même espèce, et pourtant très différent. Ce qui fascinait le petit garçon. Ma grand-mère était la petite-fille de Darwin. Elle s'appelait Lady Nora Barlow et son nom de jeune fille était Darwin, bien sûr. C'est la première personne qui a rassemblé ses papiers systématiquement. Elle a donné toutes ses archives à la bibliothèque universitaire de Cambridge. Elle a publié son autobiographie et son journal de bord qui relate le voyage du Beagle. Je me suis occupée d'elle lorsqu'elle était âgée. Elle m'a parlé beaucoup de Charles Darwin. Elle m'a parlé des difficultés qu'il avait avec son épouse, à mesure que ses recherches l'amenaient à comprendre de mieux en mieux l'évolution. Et son épouse Emma était une fervente chrétienne très pratiquante.
Darwin, chez lui, à Down, avait une propriété quand même conséquente, un jardin, un parc extrêmement important dans lequel il passait beaucoup de temps, il allait se promener, etc. Mais en même temps, c'était un lieu d'expérimentation. Et il a mené beaucoup d'expérimentations sur le végétal et ça a donné lieu à des publications extrêmement importantes qui sont beaucoup moins connues puisque Darwin a écrit sur les orchidées, sur la fécondation croisée des plantes, sur les plantes carnivores, sur le mouvement des plantes. Hein.
On est dans la serre donc, qui est juste à côté de la maison de Darwin, avec des expériences qui sont encore en cours. Il y a des petits pots de fleurs un peu partout. Ah oui, c'est magnifique. Des orchidées, des plantes carnivores. C'est une vraie serre, il fait bien chaud et humide. Alors on est avec Rowan Blake, qui est le jardinier, finalement, qui s'occupe un peu de maintenir toutes ces plantes.
On se trouve dans la partie la plus ancienne de la serre. Aujourd'hui, il ne reste que 3 parties sur les 5 existants du temps de Darwin. Les 2 dernières ont été retirées par la famille après sa mort. Ici, on voit des orchidées sur des étagères en bois, sur différents niveaux. Il y a des plantes carnivores aussi dans la partie centrale.
It went from being an unheated greenhouse.
Avant, c'était une serre qui n'était pas chauffée. Et puis, elle a bénéficié d'un système de chauffage très efficace. Ici, vous voyez un banc en briques. Et là, les canalisations du chauffage qui datent de l'époque de Darwin.
On advice of his friend Sir Joseph Hooker.
Sur les conseils de Sir Joseph Hooker, il l'a transformé en serre chauffée pour travailler sur ses plantes. Lorsqu'il a installé le chauffage, Hooker lui a offert plusieurs centaines de plantes. C'est un cadeau merveilleux pour Darwin que de pouvoir travailler avec ses plantes. Ici, vers le centre, on voit des plantes qu'il aurait pu voir pendant son voyage à bord du Beagle. Il y a différentes espèces de plantes carnivores. Et on voit des orchidées. Certaines qui pendent des paniers, des nepenthes, et des spécimens de plantes typiques d'Amérique du Sud, dont toute une gamme dans la lignée des plantes à l'entrée.
Darwin, en fait, était marié avec sa cousine Germaine et donc il était assez inquiet des questions de consanguinité. Il a 3 de ses enfants qui sont morts sans trop d'explications et il a beaucoup travaillé sur la consanguinité pour prouver que les plantes se pollinisaient avec des individus différents.
Yes,
Oui, dans la première édition de l'Origine des espèces, Darwin décrit les processus à l'œuvre, mais sans en expliquer les détails ni le fonctionnement. Peu de temps après la publication de l'Origine des espèces en 1860, quelqu'un a écrit qu'on pouvait observer de nouvelles espèces ou des variations apparaissant chez les primes verts au cours d'une seule génération. Darwin savait que ça n'était pas aussi rapide et il a lancé des séries d'expériences pour comprendre comment cela fonctionnait véritablement. Par la suite, il a découvert le mécanisme selon lequel des populations de primes verts peuvent s'hybrider avec une autre espèce en contrôlant la pollinisation. Il a constaté que les plantes autofécondées avaient des fruits plus petits et des graines plus légères et que les plantes hybridées avaient des fruits plus gros et des graines plus lourdes. Il a inventé des systèmes de reproduction de formes différentes d'une même espèce, avec ou sans consanguinité. Il a tenté de les croiser notamment avec du lin. Ensuite, il a mené de nombreuses expériences sur la consanguinité avec de nombreuses autres espèces pour pouvoir témoigner de la vigueur ou de la faiblesse des plantes selon les cas. Et si on continue à mener la consanguinité génération après génération, si les plantes s'autofécondent, elles finissent par péricliter. Et cela le préoccupait fort, car ça l'amenait à se poser des questions sur son mariage avec sa cousine.
Quand on prend le livre « L'origine des espèces » par le moyen de la sélection naturelle, le livre de 1859, on constate que le sous-titre du livre, c'est ouvrez les guillemets, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence. Fermez les guillemets. Et c'est curieux que le sous-titre ne parle pas de changement, ne parle pas d'évolution, ne parle pas de transformation, il parle de préservation. Et ça, c'est frappant. Eh bien, c'est que la sélection naturelle, il faut bien la comprendre d'abord comme une source de régularité. Et ça, on l'a un peu oublié. Au XXe siècle, il y a des raisons pour ça. On trouve ces raisons dans les acteurs de la théorie synthétique de l'évolution, synthèse évolutive, du milieu du XXe siècle. Ces gens-là ont fait comme si les espèces existaient, d'elles-mêmes, dans la nature. Dès lors, si les espèces existent, le rôle de la sélection naturelle, c'est pour eux d'expliquer comment elles changent, vu qu'elles sont données à voir, vu qu'elles existent déjà. Alors que chez Charles Darwin, les espèces ne sont pas données comme existantes déjà. Elles ne sont pas ce qui est donné à voir par les humains. Ce qui est donné à voir pour Darwin, ce sont les individus et non pas les espèces. Dans la nature, il n'y a que des individus qui varient. Darwin d'ailleurs ne s'intéresse pas nécessairement à l'origine de la variation ou pas dans le détail. Il s'intéresse simplement aux conséquences d'une variation dont il voit qu'elle part dans tous les sens. Pas nécessairement d'ailleurs bénéfique aux individus qui subissent ces variations. Les variations partent dans tous les sens, et à partir de là, comment on a, à partir d'un foisonnement désordonné, comment est-ce qu'on obtient une régularité des individus qui vont se ressembler, qui vont faire des petits ensemble, qui vont être généalogiquement séparés du lignage voisin, et ces régularités-là, on va les appeler, nous, des espèces. Les espèces, c'est nous qui les faisons, elles ne sont pas dans la nature. C'est très différent de ce qu'on nous a appris à l'école, en fait, quand on lit bien Darwin dans le texte. Alors, la sélection naturelle, quel est son rôle là-dedans? Le mot sélection, ça veut dire quoi? De cette variation foisonnante, dont certains des traits, dont certaines des conséquences sont héritables à la génération suivante, il va y avoir des traits qui sont momentanément et fortuitement néfastes à leur porteur. Il y a des traits qui sont neutres et des traits qui sont favorables. Ceux qui sont favorables et héritables vont forcément avoir tendance à se répandre dans le lignage généalogique. Et on a là, dans un temps court, une régularité qui s'installe. Finalement, c'est à peu près la même combinaison de traits à peu près favorables qui fait qu'on fait plus de petits à la génération suivante. Et ce qui fait que les individus d'une même espèce se ressemblent. Ne sont jamais identiques, bien sûr, mais se ressemblent au moins. Et à partir de cette ressemblance-là, nous, on en fait une boîte dans nos têtes. Nous, les humains, on en fait une boîte dans nos têtes qu'on appelle une espèce. La sélection naturelle est d'abord, avant tout, l'explication d'une stabilité relative à partir d'une variation foisonnante. Dans un second temps, si le milieu change, ce milieu-là qui est le crible des variations finalement, c'est au vu des conditions du milieu que les individus font plus ou moins de petits à la génération suivante, et bien ce milieu-là, s'il change, alors la sélection naturelle, effectivement, dans un second temps, explique comment ça change. Mais on a oublié qu'au XXe siècle, nous avons eu tendance à ne voir que la sélection naturelle sous l'angle du changement et pas suffisamment sous l'angle de la stabilité.
Bien souvent, on parle d'évolution, on va utiliser un langage qui va être proche de celui de la parenté, de la famille. Donc on va se placer dans une échelle en termes de population et de durée, qui est une échelle humaine. Or là, il faut vraiment abandonner tout ça pour rentrer réellement dans le sujet. Il faut passer à des échelles qui sont gigantesques, qui sont des échelles géologiques en termes de temps, qui sont des échelles de milliers, de centaines de millions d'individus sur lesquels agit la sélection naturelle et qui sont sur le fait que pour que ces phénomènes apparaissent, soient perceptibles, il faut des générations et des générations sur la plupart des individus, même si des phénomènes d'évolution sont perceptibles sur des individus à faible temps de génération. Il faut quand même se mettre dans cette idée que tous ces phénomènes sont très longs. Et ça a une importance capitale, on le verra sans doute tout à l'heure, même à l'époque de Darwin, la question de la durée est fondamentale. C'est-à-dire que Darwin, par la biologie, il découvre que l'histoire de la Terre est forcément plus ancienne que celle qu'on imaginait à son époque, à la fois côté religion ou la Terre à 6000 ans, mais même du côté des scientifiques. Cet âge de la Terre, on essayait déjà de le calculer. Pour que sa théorie tienne, il fallait absolument que la Terre ait plusieurs millions d'années. Et donc que l'évolution du vivant s'est faite sur ces générations gigantesques, donc qui se comptent en millions d'années et parfois en millions de générations.
On va continuer la visite.
We're at the crossroads of the house now.
Et si vous voyez les mêmes peintures et les reproductions que Darwin avait au mur à son époque, ici un escalier qui tourne autour du premier étage, on voit les chambres, il y a une porte qui donne sur le jardin, ici à droite, et en contrebas, ici, dans ce placard.
C'est vraiment l'endroit emblématique. Donc, c'est un petit placard à côté de l'escalier.
Ici, vous voyez le jeu de croquet. On joue au croquet sur la pelouse. Et ici, tout emballé. Et on a découvert cela après la mort de Darwin. En fait, il y a plusieurs sortes de colis. Eh bien, c'est là que se trouvaient les premiers manuscrits de l'origine des espèces. À l'époque, le papier était très cher. Par conséquent, il fallait le recycler. Toutes les lettres reçues, eh bien, il les donnait aux enfants pour qu'ils dessinent dessus. Les enfants ensuite jetaient ces papiers. Et après 1862, chacun savait que Darwin serait célèbre et les gens ont commencé à garder les lettres. Et les lettres gardées par la famille étaient là, gardées dans le placard. Et les anciens manuscrits de l'origine des espèces étaient préservés ici. Au moment de sa mort, tout a été rangé et on s'est rendu compte de la valeur de tout cela. Et les fils ont commencé à transcrire les lettres, les petites filles aussi, et ainsi de suite. Et c'est là que nous avons pu acquérir cette connaissance historique de l'œuvre de Darwin.
Voilà, donc dans ces petits placards, en fait, il avait caché toutes ces notes qui vont servir de fondement à l'origine des espèces. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait écrit dessus à ne lire qu'après ma mort, parce que pendant très longtemps, il ne pensait pas du tout publier ses théories tant qu'elles n'étaient pas parfaitement prouvées. Mais par contre, c'est bien suite à la correspondance avec Alfred Wallace qu'il a fini par se dépêcher de publier en 1859 parce qu'il a vu qu'il avait développé la même théorie que lui et qu'il risquait de perdre la primeur de sa démonstration.
Il n'y a jamais eu de rivalité. C'est ce qu'on a souhaité voir. Et les gens voient toujours la concurrence partout. Wallace avait une vie différente. Il venait du pays de Galles. C'était un jeune géomètre. Il travaillait en tant que tel, et dans une bibliothèque, il a commencé à lire les articles de Darwin. Et il est tombé amoureux de cette notion de l'histoire naturelle, de collectionner les choses pour découvrir les origines. Précisément ce que faisait Darwin de manière systématique dans ses premiers ouvrages. Il avait 20 ans de moins que lui et il rêvait de partir. Puis il est devenu collecteur. Enfin, il a rencontré Darwin. C'est un rêve qui se réalisait. Ils se sont rencontrés dans le musée d'histoire naturelle et enfin, il a pu partir pour les Philippines. Lorsqu'il est tombé malade du paludisme, il s'est rendu compte qu'il vivait dans les mêmes conditions de vie que Darwin lorsqu'il était aux Galapagos. Il se rendait d'île en île et il s'est aperçu qu'une espèce d'oiseau qui avait de grandes taches jaunes sur la tête avait des taches plus petites sur une autre île. Et même chose pour la différence entre les becs. Darwin avait fait les mêmes observations dans les Galapagos. Il s'est rendu compte qu'à cause des îles, il y avait des différences qui s'opéraient entre les espèces. Ainsi, il a écrit une lettre très célèbre depuis l'île de Ternate. Et cette lettre est arrivée chez Darwin à un très mauvais moment. Son fils le plus jeune venait de mourir, probablement mongolien. Il avait attrapé la scarlatine. Évidemment, toute la famille était désespérée. Une des filles l'avait aussi attrapé. Il ne savait pas quoi faire. C'est alors qu'ils ont vu arriver cette lettre. Et Darwin a dit qu'il pourrait s'en servir comme introduction à sa théorie. La pensée de Wallace était très proche de celle de Darwin. Voici la lettre telle qu'il a écrite à l'époque, que j'ai transformée en poème. Elle a été écrite le 25 juin 1858.
I am very sorry to trouble you in so merely personal an affair.
Je suis désolée de vous ennuyer avec cette affaire personnelle. Il n'y a rien dans la théorie de Wallace qui ne figure dans la théorie que j'ai élaborée en 1844. Je pourrais démontrer que je n'ai rien puisé dans son travail. Je serais heureux de publier mes idées. Mais je ne peux pas me convaincre que je puisse le faire de manière honorable. Je préférerais brûler l'ensemble de mon livre plutôt que l'on puisse penser que je me suis mal comportée. Je n'ai rien volé à sa doctrine. Je ne pourrais dire si une publication à l'heure actuelle ne serait pas avilissante.
Je ne pourrais dire si une publication à l'heure actuelle ne serait pas avilissante.
Et donc c'est un peu sous cette pression que Darwin va produire son livre, et ce qui s'oppose un peu à sa méthode, parce que Darwin pratique une science qu'on appelle la consignance additive. Donc c'est une science qui consiste à énoncer des lois, d'une certaine manière, et ensuite à convoquer un nombre de faits hétérogènes maximal pour corroborer ces lois qu'on présente. Donc c'est un travail de compilation énorme, et Darwin, il sait que de toute façon, il va se retrouver face à une résistance au sein des milieux académiques quand il va publier son travail. Donc il veut avoir le plus de faits possible et pouvoir démontrer déjà ses théories, travailler sur les objections potentielles qu'on pourrait lui faire. Donc c'est quelqu'un qui en aucun cas ne voulait publier un brouillon de ses idées. Donc ce qui explique aussi ce temps relativement long qui a prévalu à la constitution de ce livre. Sachant qu'ensuite, c'est un livre qui n'est pas fini, puisqu'en 1859, effectivement, le livre paraît, mais il va y avoir 6 éditions du vivant de Darwin, donc il va amender à chaque fois, avec des modifications parfois importantes. D'ailleurs, il y a un livre qui est assez marrant, qui est un Variorum, l'origine des espèces, qui est un livre qui montre en parallèle toutes les modifications qu'a fait Darwin. Donc c'est assez très difficile à lire, mais c'est en même temps c'est assez intéressant, parce qu'on voit des changements subtils, d'autres très importants dans le contenu même du livre. Bon, par exemple, il y a la notion d'évolution, le terme d'évolution qui apparaît dans le sens réel, qui n'est pas dans la première édition, puisque l'évolution de la première édition, c'est plutôt le développement. En fait, par exemple, il y a des références qui apparaissent, il y a des faits nouveaux.
En postulant l'existence d'un processus de sélection naturelle, on peut expliquer un grand nombre de faits. C'était typiquement une méthode hypothético-déductive. Darwin prétendait que la sélection naturelle expliquait les adaptations morphologiques, les adaptations instinctives, la distribution des fossiles dans les couches stratigraphiques, la distribution géographique des espèces, les extinctions, les rapports entre développement et évolution, l'allure de la classification et un certain nombre d'autres choses. Il y a comme ce que j'appelle des boîtes. La sélection naturelle est un bon principe parce qu'elle explique tout cela.
Elle rassemble des phénomènes qui apparaissent indépendants et qui ne le sont pas. Bon, c'est un argument qui a beaucoup marqué les gens de son époque, mais à partir du milieu du XXe siècle, on a commencé à dire, oui, mais est-ce que la sélection naturelle, il n'y a aucun doute qu'elle existe, on le sait bien, dans les années 50, par exemple, c'était assez clair, mais est-ce qu'elle explique bien tout ça? Est-ce que c'est bien raisonnable de dire que ce principe-là explique toutes ces choses? Par exemple, est-ce que ça explique bien les extinctions de masse? Là, je vous donne cet exemple-là parce que c'est un très bon contre-exemple.
Le dernier livre de Darwin était entièrement consacré aux vers de terre et il a fait ici autour de sa maison des expériences très amusantes avec des cailloux.
Il avait remarqué que des pierres à la surface des champs s'enfonçaient dans le sol. Il le savait parce que quand il a emménagé ici, il a placé des pierres afin d'améliorer la terre et le rendement de la récolte.
Il
voulait gagner de l'argent à partir de ses terres. Il avait beaucoup parlé à l'un de ses oncles de ce processus et il a lancé une expérience à très long terme au cours de laquelle il a observé une pierre de meule recyclée, une pierre ronde, et il a mesuré le temps qu'il lui fallait pour s'enfoncer dans le sol. Et c'est son fils qui avait mis en place les instruments de mesure.
Il voulait aussi prouver que les vers de terre avaient une certaine forme d'intelligence.
Oui, il a mené différentes expériences pour déterminer comment les vers de terre ressentent leur environnement et il a pu quantifier le travail des vers de terre, la quantité de terre déplacée, la longévité du ver de terre. Il a pu montrer que les vers de terre ressentent différentes formes de vibrations aux alentours. Avant les travaux de Darwin, les gens pensaient que les vers de terre étaient nuisibles pour les plantes. Mais après ces expériences, les gens ont compris que les vers de terre étaient très importants pour la santé de la terre et des récoltes, et que c'était un organisme tout à fait bénéfique.
Il jouait de la musique avec sa famille pour voir si les vers de terre réagissaient aux vibrations.
Oui, c'est vrai aussi. L'un de ses fils jouait des instruments avant, et il regardait si les vers réagissaient, et ce n'était pas le cas. En revanche, les vers de terre réagissaient lorsqu'ils étaient posés sur le dessus du piano et lorsque l'on jouait telle ou telle note. Évidemment, les vibrations variaient selon la note et le vers de terre réagissait ou non.
Nous avons eu tendance à penser que la sélection naturelle allait faire des organismes parfaits et au XXe siècle, on a frôlé l'adaptationnisme, ce qu'on appelle l'adaptationnisme naïf, c'est-à-dire cette idée que forcément tout était au mieux pour le meilleur des mondes, toute disposition corporelle dans un animal ou dans un végétal était forcément au mieux pour le meilleur de l'espèce dans l'environnement dans lequel elle se trouve. C'est plus subtil, y compris à l'époque de Charles Darwin, quand on regarde les différentes conséquences sélectives, on s'aperçoit que ces conséquences sélectives se contrecarrent les unes les autres. Par exemple, l'aptitude à capter des ressources pour un individu contre ceux qui convoitent les mêmes ressources. Eh bien, cette aptitude, si elle est héritable, elle va avoir tendance à se transmettre dans les populations, car ceux qui l'ont captent plus de ressources et donc font plus de petits. L'aptitude à coopérer avec ses voisins, parce que finalement, face aux aléas de l'environnement, un peu de solidarité dans la population, on s'en sort mieux collectivement que s'il n'y avait pas de solidarité, que si on se débrouillait tout seul. En moyenne, ceux qui coopèrent en moyenne par tête font plus de petits à la génération suivante qu'ils n'en feraient s'ils ne faisaient pas. La coopération, l'entraide, elle aussi, elle est obtenue par voie sélective. Et donc, bien des espèces sont un mélange de comportements compétitifs à certains moments, coopératifs à d'autres moments. Notre espèce, bien sûr, mais pas seulement. Prenez les hyènes tachetées dans la savane africaine, par exemple. Au moment où elles chassent, elles sont coopératives. Il faut savoir que 80% de ce que mangent des hyènes tachetées, c'est chassé. Elles ne sont charognardes que pour 20% de leur proie. Au moment de la chasse, elles sont coopératives. Et un quart d'heure après, quand la proie est tuée, au moment de prendre la nourriture, elles deviennent compétitives. C'est-à-dire que c'est par l'agressivité que le rang d'accès au cadavre est régi, l'ordre de l'accès est régi en fonction du rang social. Hein. Et donc là, on a, dans l'espace d'une heure ou deux, les deux comportements, tous les deux ayant été sélectionnés de par le passé. Et donc cette sélection naturelle, elle forme des espèces de compromis. Les choses ne sont pas aussi claires et tranchées. En tout cas, la sélection naturelle n'est pas qu'une affaire de compétition.
La question de la queue du paon lui a fait faire des cauchemars.
Alors la queue du paon est effectivement un allongement terrible de la queue qui ne sert strictement à rien d'un point de vue adaptatif. Et comme il y a énormément d'éléments qui ne correspondent pas à l'adaptation des espèces, c'est-à-dire les couleurs, les cornes comme il disait, il a fallu qu'il rédige une dizaine d'années plus tard un autre ouvrage qui traite du coup sur le même principe parallèle de la sélection sexuelle, parallèle à la sélection naturelle. Mais là il y a une très très grosse différence puisque dans cette sélection sexuelle, ce sont les individus qui choisissent. Alors que dans la sélection naturelle, le principe est aveugle et totalement matérialiste. Alors, c'est ce qui expliquerait l'évolution de la queue du paon, sachant tout de même que là encore on reste sur des énigmes biologiques actuelles.
Oui, il a beaucoup étudié l'éthologie, le comportement animal, et par exemple l'altruisme est une question qui l'a beaucoup préoccupé.
Oui, ou les émotions encore. Il a effectivement montré qu'on pouvait comparer des émotions chez les différents animaux, les différentes choses. Je pense qu'il a plutôt travaillé sur les questions d'entraide pour essayer de répondre à ses détracteurs de l'époque. Ça l'intéressait vers la fin de sa vie. Il a essayé de comprendre quelles étaient les interactions entre les parasites, les interactions entre les orchidées et leurs butineurs, des choses de ce genre, par exemple.
Oui, cette entraide, on pourrait l'interpréter comme étant défavorable à un individu puisqu'il va en aider un autre et du coup...
Oui, c'était tout à fait les premiers reproches qu'on lui a fait, c'est Kropotkin par exemple, qui était un auteur très important puisqu'il a écrit que l'entraide était un facteur d'évolution à l'époque, ont effectivement montré de développer tout un ensemble d'idées qui montrent que l'évolution est d'abord faite de processus associatifs, d'éléments associatifs. Mais on ne peut pas dire que c'est le sens de la théorie de la sélection sexuelle qui dit au contraire la chose totalement différente puisqu'elle dit bien que c'est la concurrence entre les individus, même si cette concurrence est une concurrence de reproduction, qui va permettre à certains de ceux qui sont les mieux adaptés, qui sont les meilleurs dans leur milieu naturel, de mieux se reproduire que les autres. Et la biologie évolutive actuelle poursuit un petit peu cet événement puisqu'elle dit en gros que c'est la meilleure diffusion des gènes qui va être promue par la nature. Il y a donc là une sorte de finalisme qui nous conduit à aller effectivement vers un Darwin plutôt finaliste que particulièrement intéressé par les questions de relations entre les espèces.
Et vous, en fait, Thierry Laudet, vous êtes professeur en écologie évolutive et donc vous avez voulu dépasser cette théorie de l'évolution purement darwinienne.
Oui, c'est pas que moi. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de toutes les qualités qu'on peut reconnaître à la théorie darwinienne, la théorie évolutive, depuis que Lamarck l'a inaugurée, cette théorie évolutive s'est enrichie de très nombreux événements qu'on ne peut pas qualifier autrement que de non-darwiniens. Mais on peut en citer quelques-uns. Par exemple, le catastrophisme, les transferts de gènes horizontaux, le conflit sexuel, la dérive génétique, la sympatrie, les exaptations. Par exemple, les catastrophes. Voilà un phénomène non darwinien dont un chercheur qui s'appelle Alvarez a montré l'importance sur l'évolution des dinosaures. Et ça touche un point d'écosystème. Et là, tout l'écosystème s'écroule comme un domino. On voit qu'on est très loin de la question d'adaptation. C'est pas un événement adaptatif ou non adaptatif qui a joué. C'est un pur hasard. Et Gould, un autre chercheur biologique, disait qu'on pouvait même y reconnaître là l'importance d'un Français, Cuvier, qui avait inventé la théorie catastrophiste. D'autres éléments, par exemple la dérive génétique, le fait que les gènes changent par le simple fait du hasard, eh bien c'est tout, encore un mécanisme non darwinien. Et ça agit sur les fréquences, sur les populations. Les individus ne sont pas des coopérateurs dans leur reproduction aussi facilement que ça. Il y a une coévolution antagoniste. Cette coévolution a un rôle essentiel dans l'évolution.
Pour sélectionner les pigeons qui culbutent au moins 3 fois, saisissez-les au vol. Que ce soit à l'état domestique ou naturel, les variations surviennent par hasard. Les éleveurs n'ont aucune influence sur leur apparition. L'action des éleveurs consiste sur plusieurs générations à choisir comme reproducteurs les individus qui possèdent une ou des variations intéressantes. Ils forment ainsi de nouvelles variétés de pigeons. En observant ce travail de sélection artificielle, Darwin constate que la variation naturelle se laisse sélectionner et trouve par analogie un indice du mécanisme de sélection naturelle. Dans la nature, il n'y a pas d'éleveurs, mais l'environnement fait pression. Les prédateurs, le climat, les ressources disponibles. Comme les individus par leur variation sont différents, leurs chances de survivre et de se reproduire ne sont pas égales. C'est la sélection naturelle.
Une pensée puissante, elle va être à la fois combattue et elle va être à la fois récupérée. Et j'ai usage de dire qu'il y a le Darwin attendu en son temps. En son temps, Darwin, quand il sort le livre, écoutez, c'est un scoop pour personne, ce sont ses amis qui l'incitent à écrire son livre. Parce qu'ils savent, ses amis, que ça fait depuis 1837 que tout est inscrit dans les carnets. Depuis le retour du Beagle, les idées étaient déjà là. Mais Darwin est un perfectionniste et il veut un travail irréprochable. Avec des exemples, avec des faits, avec des conjectures qui sont étayées. Donc il va essayer d'étayer son travail pendant longtemps et ce sont ses amis qui le poussent à écrire. Et ce livre-là est attendu des scientifiques. Le livre est à peine sorti qu'il est déjà épuisé, en quelques jours. Enfin, il y a vraiment un Darwin attendu dans la science de son époque. Il y a un Darwin attendu, le monde scientifique était mûr. Il y a un Darwin combattu tout de suite. C'est-à-dire, dès 1860-1861, les autorités religieuses anglaises contestent, se scandalisent de ce qu'on a pu écrire dans l'origine des espèces. Et dans la lignée de cette contestation, on a l'ensemble des créationnismes qui s'expriment depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, avec différentes versions. Des versions qui sont plus négationnistes, dire non, il n'y a pas d'évolution. On ne peut pas expliquer comment on peut avoir une harmonie entre des formes et des fonctions, comment dans la nature peut fournir des formes qui fonctionnent. On ne peut pas expliquer ça juste par une variation, par hasard. C'est le hasard que les gens n'aiment pas, en fait. On ne peut pas avoir une variation par hasard suivie d'une sélection pourvoyeuse de régularité. Oui, en général, les gens oublient qu'il y a le nombre d'essais erreurs. Si vous voulez comprendre comment ça se passe dans la nature, vous devez quand même savoir que la loterie, elle est énorme. Il faut multiplier le nombre d'individus par le nombre de générations. Et le nombre de générations, c'est sur des millions et des millions d'années. Donc le nombre d'essais erreurs, il est tellement gigantesque que l'événement le plus improbable va forcément se produire. L'événement avantageux que nous considérons comme improbable, eh bien, il va se produire, en fait, dans la population.
Ruth Padel, vous écrivez beaucoup des parties justement très sensibles de son enfance, et notamment sa rencontre avec son professeur en taxidermie à Édimbourg, qui était John Edmonstone, qui était en fait un esclave affranchi de Guyane.
Oui, c'était une époque importante dans la vie de Darwin. Il ne travaillait pas bien à l'école. Il voulait travailler dans le domaine de la science. Mais c'était le latin ou le grec qui l'ennuyait particulièrement. Donc son père l'a envoyé à Édimbourg, à l'école de médecine, où son père et son grand-père, Erasmus Darwin, étaient allés avant lui. Donc il allait devenir médecin, mais il ne supportait pas les conférences si ennuyeuses. Et c'était pénible, toute cette douleur, c'était à l'époque de la chirurgie avant qu'il n'y ait du chloroforme. Il avait du mal à assister aux opérations, donc il a commencé à faire d'autres choses. Il est sorti en mer en bateau avec des pêcheurs pour observer la vie marine. Et là où il vivait, il y avait à proximité l'un des premiers Britanniques noirs. Il s'appelait John Edmonstone, qui était un esclave affranchi, né en Guyane et emmené dans la forêt, où il avait appris la taxidermie auprès du fils du propriétaire de la plantation, qu'il avait ensuite emmené en Écosse pour l'affranchir. Il gagnait sa vie en enseignant aux étudiants comment empailler les animaux. Darwin s'est rendu chez lui. Il lui a donné une pièce pour comprendre comment effectuer la taxidermie. Parce que lorsqu'on collectait des choses, il n'y avait pas de réfrigération possible. Si l'on abattait un oiseau ou un autre animal, mais surtout un oiseau, parce que c'est ça qui vous donne un aperçu du spectre de la vie dans la jungle, il fallait l'empailler pour éviter que l'animal ne pourrisse. Donc c'est grâce à John Edmonstone qu'il s'est passionné pour la jungle tropicale.
Alors, je parlais d'un Darwin attendu, d'un Darwin combattu, et il y a aussi le Darwin récupéré. Et ça, c'est le troisième volet, c'est les récupérations de Darwin. Alors là, cette fois-ci, il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit de s'en servir, au contraire. Alors, il y a des grands classiques, Herbert Spencer, mais là aussi, très tôt, à peine un an après la parution de l'Origine des espèces, Spencer va forger un évolutionnisme philosophique dont le rôle est principal est de justifier le laisser-faire libéral de l'Angleterre victorienne. N'aidez pas les pauvres, parce que si vous aidez les pauvres, vous favorisez la reproduction des individus dont les existences sont socialement indésirables, et vous allez faire baisser la qualité de la population anglaise. Obsession du cousin de Darwin, le fameux Galton, qui lui aussi est obsédé par la baisse de la, comment dire, des capacités intellectuelles de la population anglaise. Et il va faire de cette obsession un véritable système préconisant le contrôle des naissances. Alors le contrôle des naissances, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme. Et encore une fois, cet eugénisme, il est faux de dire que c'est un héritage de Darwin. Pas du tout. Darwin ne s'est jamais exprimé sur cette question. Et si Darwin donne le principe de sélection naturelle, il le donne pour le monde naturel, pour le monde des humains. Mais en 1871, dans La filiation de l'homme, il précise bien que l'homme est sujet à plusieurs pressions de sélection. Certes, la compétition entre des humains qui convoitent les mêmes ressources, elle existe, mais il y a aussi la coopération qui existe, et donc en fait c'est les deux en même temps qui fonctionnent. Donc ce que fait Spencer, c'est qu'il isole lui ce dont il a besoin pour favoriser ce qu'on appellera en 1880 le darwinisme social, mais qui, malheureusement, le mot est malheureux, n'a rien à voir avec Darwin, puisque Darwin ne l'a jamais préconisé. Voilà, ce principe de sélection éliminatoire vis-à-vis de ceux dont on ne voudrait pas dans la société, ça c'est le travail de Spencer, c'est pas le travail de Darwin en fait. Darwin, au contraire, dans sa correspondance, lorsqu'il prend la parole sur son souhait vis-à-vis de ses semblables, il dira que il aurait voulu faire plus pour promouvoir l'égale dignité de tous les humains et promouvoir le bien-être de ses contemporains, quel qu'il soit. Il était plutôt humaniste, universaliste, certainement pas eugéniste en fait. Et ça, il l'écrit clairement.
Est-ce que vous diriez, Ruth Padel, que finalement Darwin est le meilleur exemple de sa propre théorie de la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'il avait en quelque sorte l'environnement théologique qui l'empêchait de publier, et de l'autre côté, même si c'était pas une vraie rivalité avec Wallace, il y avait quand même cette compétition pour la postérité qui était très importante pour lui, qui l'a forcé à publier son document. Donc est-ce que vous pensez qu'il n'est pas lui-même le meilleur exemple de cette sélection naturelle?
I think that's a very interesting thing, is he's adapting to the environment, he's adapting to the situation. Yes,
it's a oui, c'est intéressant, nice, il s'adapte à l'environnement, et il s'adapte à la situation.
In the first edition of the Origin of Species, he kept absolutely
dans la première édition de l'Origine des espèces,
the only mention of it is
il n'a pas voulu parler de l'humain. Il dit simplement que la psychologie reposera désormais sur une base nouvelle. Par la suite, il y a eu différents passages sur l'homme dans son œuvre, mais il ne voulait pas inclure ce sujet, parce qu'il voulait à tout prix éviter une argumentation religieuse. Il voulait une description scientifique des phénomènes. Il ne savait que trop bien ce qui pouvait advenir d'un point de vue théologique.
C'était Une vie, une œuvre, Charles Darwin ou la lutte pour une théorie, avec James Moore, biographe de Darwin, Rowan Blake, le jardinier de Downhouse, Ruth Padel, arrière-arrière-petite-fille de Darwin, Jean Gaillon, préfacier des mondes darwiniens aux éditions matériologiques, Thierry Laudet, auteur du Manifeste pour une écologie évolutive, Darwin et après, aux éditions d'Ile Jacob, Guillaume Lecointre, auteur de Descendons-nous de Darwin aux éditions du Pommier, et Éric Lapie, co-commissaire de l'exposition Darwin l'original à la Cité des Sciences. Remerciements à l'équipe de Downhouse et à Olivier Chomel. Traduction Xavier Combes. Voix Marlène Goulard. Prise de son Frédéric Quéroux, Philippe Etienne, Nicolas Delmas. Mixage Valérie Lavalard. Réalisation Nathalie Salle. Un documentaire de Lydia Benitzrak.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celui qui a vécu dans l'écriture, l'exil, la nostalgie et l'alcool, Joseph Roth.